Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1.
Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, votre espace d'expression et de commentaires sur l'actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le JDA, nous attendons vos réactions à l'actualité politique togolaise. La principale coalition de l'opposition au Togo, la coalition des 14 partis d'opposition, la C14, a donc décidé de boycotter les législatives du 20 décembre prochain. Elle dénonce notamment des irrégularités dans la préparation des élections. Alors, l'opposition fait-elle le bon choix? Quelles seront les conséquences de ce boycott? Vos avis nous intéressent. Pour cela, appelez-nous maintenant au 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. Avant de vous écouter en direct, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Mes chers amis du JDA et Madame Atman, bonjour. Je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est par rapport à l'émission qui concerne la restitution des œuvres d'art. C'était pour dire que ces œuvres d'art doivent être restituées sans condition. Je souhaiterais par la même occasion que la République démocratique du Congo est le pays colonisé par le Royaume de Belgique en face au temps. Pour ce qui concerne leur conservation, je pense que si les États demandent la restitution, ils prennent des dispositions qui s'imposent pour la conservation. Le gouvernement congolais n'a pas de leçons à donner aux autres. Bien des choses à tout le monde. Bienvenue Kassongo, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.
Bonjour, Africain Mourin. J'ai dit félicitations le gouvernement burkinabé qui sont en train de juger les gens qui ont fait coup d'État. Djengere avec ses groupes. Je demande les autorités maliennes qu'est-ce qu'ils attendent pour juger Amadou Ayassano, qui a fait coup d'État à un président qui est élu par le peuple malien qui s'appelle Amadou Toumani Touré. Amadou Ayassano qui a fait coup d'État à Toumani. J'ai dit le gouvernement malien ne peut pas juger Amadou Ayassano parce qu'ils sont complices avec Ayassano qui a fait coup d'État, un président qui est élu par les peuples. Merci, au revoir, Africain Mourin. Bonne journée.
Bonjour, Julia. Je voulais intervenir parce que là, je viens d'écouter M. Salif Keita, le musicien malien. Sincèrement, je le dis, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect. C'est un grand artiste, je ne dis pas non. Je ne sais pas, lui, l'argent qu'il a eu en chantant, il a fait quoi pour la jeunesse malienne? Quand je l'entends aujourd'hui dire que l'Occidental aussi ne fait pas quelque chose, il va tout faire, ou bien j'ai mal entendu, qu'il va tout faire, les enfants vont venir envahir l'Europe. Ils vont venir envahir l'Europe avec quoi? Moi, je me dis, s'il dit ça, il faut qu'il prenne visa pour donner à des enfants. Il ne faut pas qu'ils vont mourir dans la mer. Lui, Salif Keita, normalement, il a l'argent. Les artistes africains, vous avez fait quoi pour la jeunesse africaine? Zéro. Non, arrêtez là, Salif. Ça ne vous ressemble pas. Merci, au revoir.
Oui, allô, bonjour, Madame Ekman. Je veux laisser le message à propos de la mort de le terroriste Amadou Koufa, été tué par l'armée française, et qui est le nom de Barkhane, l'armée la plus puissante au monde. Cette armée, qui s'est basée au Kidal au Mali, ça fait très longtemps, et cette armée, avec la tête de son général qui est à Bamako, qui a beaucoup suivi ce monsieur qui est Amadou Koufa, qui n'a pas fait de dégâts. Et tout simplement, je salue aussi l'armée malienne qui a appuyé et cette armée française qui était au sol entre le 23 novembre et le 24 novembre. C'était samedi, entre vendredi et samedi. Cette armée française qui s'appelle Barkhane, vraiment, les Maliens vous saluent et les Africains vous saluent. Vous avez fait un énorme travail, y compris l'armée malienne et toutes les forces étrangères qui se trouvent au Mali. Merci Madame Akiman. Bravo et la liberté et bravo la démocratie.
Bonjour, bonjour, chers amis auditeurs d'Africa numéro 1. Bonjour, Madame Hartmann. Concernant votre invité du CDCI la dernière fois, qui est venu à l'antenne d'Africa numéro 1 et qui vient nous faire croire le contraire de la réalité en Côte d'Ivoire, c'est pour lui dire qu'il n'a pas à répondre aux auditeurs d'Africa numéro 1 comme si c'était la radio du PDCI. Nous, on s'exprime et ça aide à analyser ce qu'on dit. Ce n'est pas forcément que ce que les auditeurs vont dire est la réalité du terrain, mais s'il arrête de répondre aux auditeurs, qu'il arrête de prendre les Ivoiriens pour ce qu'ils pensent. Merci.
Chers amis de JDA, bonjour. J'interviens aujourd'hui sur l'assassinat de deux experts onusiens en République démocratique du Congo. Cela date du mois de mars 2017. Moi, je pense que la corruption, que ce soit le montant mis, que ce soit le nombre de personnes et de soutiens, la corruption a ses limites. La corruption est partie des Nations Unies eux-mêmes qui ont voulu étouffer l'enquête, ensemble avec l'armée de Kabila. Mais en fin de compte, quelques portions d'hommes décidés ont mené l'enquête jusqu'au bout. Et voilà aujourd'hui, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'armée Kabila et son gouvernement, sont devant leur propre confusion. Les experts ont été assassinés par le membre de la sécurité congolaise. Et l'affaire a été étouffée pendant longtemps par les soi-disant les membres des Nations Unies, la mission des Nations Unies installée en République démocratique du Congo. Je vous remercie, Max de la Raison Parisienne.
Monsieur Macron, Emmanuel Macron, le président français, le chantre d'une Europe unie, le chantre d'un seul peuple européen, le chantre d'une nation européenne. Voilà que ce mercredi, un responsable allemand propose qu'il y ait une seule place au Conseil de sécurité de l'ONU pour le droit de veto, que la France retire sa candidature pour qu'il y ait une seule candidature européenne, une seule voix européenne. Et voilà la France qui refuse. Voilà le scénario, voilà les ambiguïtés, voilà les esquives, voilà. Comment on ne peut pas croire à la politique, que c'est vraiment de la figuration, c'est vraiment un jeu de rôle. Voilà, voilà. Je ne crois pas moi à la justice, je ne crois pas à ces idées de bien-pensants, à ces paroles de bien-pensants. Merci, ami du JDA. Voilà quelques sujets, voilà quelques faits qui peuvent aussi édifier la mémoire et la mentalité des Africains. Salut.
Bonjour, chers amis réunionnais et réunionnaises. J'ai constaté que dans votre pays, beaucoup de villes commencent leur nom par Saint. Cela veut-il dire que les Réunionnais sont-ils en majorité chrétiens, de fervents chrétiens? Pourquoi tous ces noms commencent par Saint? Je cite certaines villes telles que Saint-Denis de la Réunion, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Jacques, etc., etc. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi la Réunion a des noms qui commencent par Saint? Je vous remercie.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Merci à Ousmane pour ces questions toujours pertinentes. J'ai regardé un petit peu, effectivement, hein, sur l'île de la Réunion, il y a beaucoup de villes qui commencent par Saint, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Philippe, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne. Voilà, globalement, les villes. Alors, rien à voir avec la ferveur des Réunionnais. Cependant, la plupart des noms de villes, par exemple Saint-Pierre, la ville de Saint-Pierre, la ville doit son nom à Pierre Cadet, gouverneur, ou alors Pierre Benoît plutôt, Dumas, gouverneur général des Îles-de-France. Voilà, ce sont des personnages illustres, pour la plupart des gouverneurs, j'aurais tendance à dire même des colons, qui ont donné leur nom, leur prénom à ces villes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites comme Ousmane, laissez-les sur le répondeur, et si vous avez des réponses, faites pareil. Voilà, là, pour intervenir en direct, le numéro, c'est le 01 55 07 58 0-0 aujourd'hui dans le JDA. Que pensez-vous de la stratégie de l'opposition au Togo qui a décidé donc de boycotter les législatives du 20 décembre prochain? Alors que depuis un an, elle négocie l'opposition avec le pouvoir sous l'égide de la CEDEAO pour faire appliquer notamment les réformes institutionnelles et cette fameuse limitation de mandat. La parole est à vous. On commence avec Abdel Wassi depuis Montréal. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour Stéphanie. Comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous-même?
Parfait. Écoute, là, ça me fait plaisir de participer à ce débat-là aujourd'hui et qui porte sur le Togo, un de mes pays, je vais vous dire en temps. Mais je suis vraiment surpris que l'opposition veuille adopter cette politique de la chaise vide. Ça n'a jamais fonctionné et ils ont déjà été victimes de ça avec le président, le père Yadema. Cette politique de la chaise vide, là, quand vous faites ça, le gouvernement là ne demande pas mieux. Parce que le pays ne va pas s'arrêter de fonctionner. Je leur souhaiterais de se préparer, de mobiliser toute la population pour être présent dans les urnes, pouvoir faire entendre leur voix, parce qu'il vaut mieux être là que de ne pas être là. Il ne faut pas qu'ils fassent cette erreur-là de la politique de la chaise vide. Ça ne porte pas de fruits. C'est surtout pas avec un gouvernement comme ça là qui ne souhaite pas autre chose que ça. Je préfère qu'ils mobilisent les gens au lieu de les décourager avec ça. Qui les mobilise, parce que quand leurs voix vont être senties dans les urnes et faire afficher dans tous les bureaux de vote les résultats, je crois qu'il va être difficile à ce gouvernement-là de changer les donnes. Les résultats, c'est ça qu'il faut aller chercher au lieu de vouloir laisser les gens aller quand est-ce qu'ils veulent faire là. Je ne leur conseille aucunement pas ça. Il faut qu'ils se rappellent de l'histoire. Il y a des mains, il y a Singbe avait déjà servi ça et puis c'est lui qui avait gagné. Et ils n'ont plus rien fait en ce temps-là. Je ne pense pas qu'ils puissent faire quelque chose aujourd'hui, là, si jamais ils adoptent cette politique.
Bon, pour vous, Abdel Wassi, c'est une mauvaise stratégie, d'autant qu'on se souvient, hein, il y a quelques années, hein, on avait soumis un projet de réforme à l'Assemblée togolaise et qui avait été rejeté, puisque le RPT, à l'époque, était majoritaire. Merci beaucoup, Abdel, hein, d'avoir ouvert ce débat sur l'opposition togolaise. Hein. Abdel, qui dénonce cette politique de la chaise vide. Bonne journée à Montréal, mon cher Abdel. On va écouter Cheikh. Cheikh, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Cheikh, bienvenue dans le JDA.
Bonjour.
Dites-nous.
Au fait, moi, ce que je vois, je pense que cette coalition, si elle mène bien le combat, elle peut trouver un gain de cause. Mais en réalité, il y a un problème au niveau de l'opposition africaine. Comment vous comprenez à chaque fois que l'opposition africaine mène un combat mais qui n'aboutit à rien? Soit c'est la stratégie de l'opposition qui est mauvaise, ou c'est l'opposition qui ne pense pas au peuple, qui pense qu'à au pouvoir. La question se trouve autour de ces deux questions. Normalement, étant ensemble, c'est l'union qui fait la force. Mais pourquoi toujours en Afrique, l'opposition étant unie, n'arrive pas à trouver gain de cause? Parce que en réalité, les stratégies, les méthodes que l'opposition prennent, c'est des mauvaises stratégies. Ils adoptent des mauvaises stratégies, c'est des mauvaises méthodes. Il faut que l'opposition change leur stratégie de combat. Si réellement, ils veulent changer, ils veulent un changement au niveau du peuple, ils veulent un changement au niveau de la vie de leurs concitoyens, je pense qu'ils doivent changer de stratégie, ils doivent changer de méthode. Moi, c'est ce que je dois dire.
Donc, du coup, vous êtes plutôt contre le boycott?
Alors, en réalité, je ne suis pas contre le boycott, je ne suis pas pour le boycott. Mais ce que je dis, je veux que l'opposition togolaise trouve des bonnes méthodes pour mener ce combat. Est-ce que vous voyez? Il ne suffit pas seulement de boycotter, mais quand vous boycottez...
Il faut être efficace, vous dites.
Voilà,
c'est ce que
il
vous
faut
dites.
Être efficace.
Des résultats.
Voilà, il faut trouver de bonnes méthodes. Voilà, les méthodes africaines sont mauvaises. Il faut que l'opposition se trouve de bonnes méthodes et s'assoie autour des grandes lignes pour pouvoir débattre, pour trouver des bonnes méthodes, pour pouvoir mener le combat. Si le combat, il est mené à rang dispersé, si le combat, il est mené avec des méthodes qui ne vont pas aboutir à quelque chose, c'est pour faire toujours souffrir le peuple. Donc c'est sûrement, il faut que l'opposition trouve de bonnes méthodes pour pouvoir combattre ce que moi je vois.
Merci, Cheikh, de votre intervention. Cheikh, un appel à l'opposition à revoir ces méthodes 01 55 07 58 00 pour intervenir. Je demande à Tata de patienter un petit peu. On va, je vous donne cette précision, hein. L'opposition justifie son boycott par des irrégularités dans le processus électoral. Elle a appelé à manifester aujourd'hui, hein, également samedi 1er décembre. Alors, parmi les irrégularités dénoncées par l'opposition, il y a notamment l'opposition exige notamment plutôt la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, cette fameuse CENI qui est composée normalement de 5 membres du pouvoir et 5 membres de l'opposition. La C14, hein, qui négocie depuis un an sous l'égide de la CEDAO, estime, hein, que les partis d'opposition représentés dans la CENI ne la représentent pas, justement. Et l'opposition exige aussi la reprise des inscriptions dans le fichier électoral et le nettoyage, hein, du fichier électoral. Alors, du côté, on va prendre Tata dans quelques instants, hein, qui va nous parler du rôle de la CEDAO, qui depuis un an est à la tête... mène, hein, ce dialogue entre pouvoir et opposition. Avant cela, je vous lis quelques messages sur la page Facebook. Il y a William qui me dit bonjour. Je pense que la politique de la chaise vide ne paye jamais, car pour faire entendre sa voix et dire ce qu'on aime, il faut participer au débat. Le boycott, pour moi, n'est pas une bonne politique. Si l'opposition togolaise veut contrer le pouvoir, il va falloir qu'elle aille à ses élections législatives, car qu'on le veuille ou non, c'est à l'Assemblée qu'on vote les lois et qu'on dit non à une loi qui n'a pas sa raison d'être. Et donc l'opposition doit se rendre compte de cette erreur qu'elle veut faire en boycottant ses élections et qui pourrait la mettre encore en colère lorsque le parti au pouvoir gagnera des sièges à l'Assemblée. C'est ce que dit effectivement aussi l'opposition. Il dit on ne veut pas aller à des élections truquées. Tata, bonjour.
Oui, bonjour, madame Atman. Comment allez-vous?
Ça va bien, Tata, et vous-même?
Ça va. Mais écoutez, en gros, vous avez résumé la situation sociopolitique qui prévaut dans mon pays depuis plus de un an. La CEDAO intervient, il y a une feuille de route. Je ne comprends pas que quelqu'un m'explique pourquoi le gouvernement en place ne respecte même pas deux ou trois de cette feuille de route. D'accord, la CEDAO est là, ils disent rien. Même récemment, l'expert de la CEDAO a soumis effectivement le test constitutionnel. Au lieu que le gouvernement introduise ce test pour voter, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent leur test à eux. L'opposition crie chaque fois à la fraude, mais la CEDAO ne dit rien. Alors, moi, je m'inscris en faux contre les deux premiers intervenants de l'émission, disant que c'est une mauvaise politique. Mais à leur place, à la place de la C14, ils vont faire quoi? Écoutez, moi, je suis au début aussi, j'étais toujours contre cette politique sous le père, et à des mains, la politique de la chaise vide ou des boycotts, d'accord?
Oui, parce mais que Tata, je le rappelais tout à l'heure, les réformes avaient déjà été soumises à l'Assemblée, comme le RPT était majoritaire, elles avaient été rejetées.
Mais oui, on a toujours cru aux élections, au bien fondé des élections au Togo. Seulement, c'est un pays militaro-dictature, de dictature, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils enrôlent, la C14 l'a dénoncé, ils enrôlent même les mineurs dans les villages les plus reculés. Même à Lomé, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils vont essayer, même le ministre de l'Intérieur, qui est effectivement un militaire, qui est un vassal du pays, enfin du gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Moi, si vous n'êtes pas d'accord, vous manifestez dans les rues les jours des élections, je vais vous gazer, je vais vous massacrer. Mais comment est-ce qu'on peut, dans un pays où la feuille de route est là, la feuille de route dit on libère les détenus politiques, d'accord? C'est des gens qui ont manifesté depuis le début, on les a emprisonnés. Est-ce qu'ils ont leur place en prison?
Et ça fait partie des mesures de crispation, effectivement. Mais du coup, Tata, vous avez commencé en parlant de la CEDAO. On rappelle le nom des deux médiateurs, Nana Akufo-Addo, président du Ghana, et Alpha Condé, président de la Guinée. Pensez-vous que la CEDAO fait le jeu du pouvoir quand on peut...
Personnellement, dans ce jeu, je ne comprends pas... Tantôt, je crois en la force de la CEDAO, qui est quand même une communauté sous-régionale, qui a une force de frappe. On les a vus déloger le dictateur semblable à mon dictateur au Togo, je parle de Yahya Jammeh, mais pourquoi ne joue-t-il pas le même rôle au Togo? sachant que l'opposition manifeste depuis Lurette, depuis Belle Lurette, Souéa des Mains, les menus. On ne peut pas citer le nombre de victimes qu'il y a eu dans ce petit pays, un tout petit pays. On ne peut pas les citer. La CEDEAO est toujours observateur. Ils prennent maintenant la gérance de cette situation sociopolitique du Togo en main. Ils ont mis en place une feuille de route qui est connue de tous. Comment ça se fait que les uns ne les appliquent pas, sachant que c'est eux qui sont censés les appliquer. C'est eux qui sont au pouvoir. L'opposition, jusque-là, n'occupe aucune mairie, aucune préfecture.
Vous dites, on entend bien, Tata, je vous remercie. Vous dites, hein, finalement, c'est à la CEDEAO de prendre ses responsabilités et de faire appliquer la feuille de route. Alors, on rappelle quand même, puisque vous avez cité les propos du ministre de l'Intérieur qu'elle est, sur les manifestations prévues le jour du vote. C'était en réaction aussi aux déclarations de Brigitte Ajamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition C14. Elle a déclaré, par tous les moyens, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo. Alors, l'opposition va-t-elle empêcher justement la tenue de ces élections législatives? On va retrouver Paul du côté de Bruxelles. Bonjour Paul.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur. Vous dites l'opposition est dans une stratégie, on veut la démocratie au Togo. Donc vous comprenez finalement cette position de la C14 qui dit on ne va pas retourner une fois de plus aux élections alors que toutes les conditions ne sont pas réunies pour leur transparence. C'est bien ça?
C'est bien cela madame. Vous imaginez, l'opposition est dans son rôle. Boycotter les élections parce que en aucun cas ces élections ne seront pas crédibles. Et nous, la population, nous disons que nous allons faire barrage à ces élections. Ces élections n'auront pas du tout lieu, vous comprenez. Et si vous vous mettez en direct sur les événements qui se passent en ce moment où je vous parle, il y a des émeutes partout. On a voulu encore protester. La population veut protester. C'est les milices, madame. Les milices à visage découvert qui sont encore en train de tabasser des gens. Que ce soit à Lomé, à Bekuta, dans mon quartier de résidence, à Sokodé ou dans d'autres villes à l'intérieur. Et tout cela pour montrer à la population, au monde entier, que vous organisez des élections dans un environnement, je dis non. Et puis, la situation du Togo est telle que, une fois que vous voulez être impartial, vous êtes obligé, compte tenu de la réalité, de donner raison à l'opposition. Comment un gouvernement assez responsable peut faire enrôler des enfants de 12 ans? Nous avons les images, madame. Moi, je suis journaliste. Si vous voulez, je vous envoie les images.
Non, mais on a vu aussi, je vous remercie, Paul, effectivement, on a vu je pense que j'en ai vu les mêmes images. Pour vous, ces élections ne sont pas crédibles. Tout à l'heure, je crois que c'est Tata qui en appelait à la CEDEAO. Que pensez-vous, Paul, de l'action de la CEDEAO qui est quand même, qui mène ce dialogue normalement?
Madame, nous, surtout de la diaspora, nous sommes obligés de jouer la voie de la diplomatie. Qu'est-ce que nous, concrètement, nous faisons ici, qui sommes à Bruxelles? Le 5 octobre passé, nous étions à l'ambassade des États, à l'ambassade du Nigeria. Vous savez que c'est le Nigeria qui coordonne les actions de la CEDEAO actuellement. Et ce samedi, le 1er décembre, nous allons y retourner à Mars. Et donc, nous disons que...
Faites de la diplomatie, du lobbying.
C'est la diplomatie. Quoique nous ne croyons pas vraiment à la chose, mais nous voulons montrer au monde entier que nous avons cette volonté-là. Nous avons cette volonté. Je vais vous faire des confidences, madame. Nous sommes dans une situation assez compliquée. Léa de ma père a déjà financé un parti de l'actuel président du Ghana, Koufou Addo, et celui-là qui est au pouvoir aujourd'hui, est obligé quand même d'être reconnaissant envers son fils, vous comprenez?
Bien sûr.
Et quand vous allez dans les chanceries, c'est les bruits de couloir que nous sommes obligés de vous transmettre. Nous sommes tenus par le secret de la diplomatie, mais à un moment, nous lâchons quand même. C'est un pouvoir.
C'est-à-dire que vous dites tout ce beau monde médiateur, président de la sauce se tient plus ou moins les uns les autres.
Oui, c'est vrai que.
On parlait des relations hier entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, par exemple. On peut deviner ce même genre de relations entre le Togo et le Ghana, par exemple. aussi.
Oui, vous savez, c'est vrai qu'il y a des démocrates, mais notre gouvernement au Togo ne cesse aussi de corrompre les autres. Et ces autres-là qui, entre-temps, de par le passé ou actuellement, leur doigt sur plusieurs plans, cessent de parfois céder à
leurs intérêts.
À leurs intérêts, vous voyez.
Merci, Paul. On voit très bien, Paul, en effet, les difficultés pour l'opposition de faire entendre sa voix. Et pour les démocrates, je vous remercie, Paul. On va écouter Fousseini et Gaspard ensuite. Et peut-être, si on a le temps, Ousmane. Ousmane qui pose cette question. Tiens, je vais lui poser la question, comme ça va une réponse. Appelez-nous. Le Togo est-il le seul pays en Afrique de l'Ouest où les élections sont à un seul tour? On va répondre à Ousmane tout de suite. Je pense que oui, Ousmane. D'ailleurs, c'est un des seuls pays, le Togo, en Afrique de l'Ouest, où il n'y a pas de limitation des mandats aussi présidentiels. Fousseini, bonjour.
Oui, bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Fousseini. Alors, Fousseini, il faudrait couper votre radio. Il me semble qu'elle est allumée.
Oui, en fait, c'est pas la radio, c'est l'écouteur.
C'est pareil. Alors, vous voyez, ça fait... Il faut couper tout.
D'accord. OK. Là, ça va?
Ça va, c'est beaucoup mieux, oui.
D'accord. Ok, voilà.
Vous êtes contre le boycott, hein, Fousseini?
Oui, moi je suis contre le boycott parce que des exemples se sont présentés à nous en Afrique où l'opposition a boycotté les élections et apparemment quand on boycotte et qu'on arrive à l'hémicycle, qu'on n'a pas de représentants et le pouvoir en place fait ce qu'il a à faire et toujours elle passe au la main. Donc moi j'ai dit que ceux qui sont contre pour le boycott, je ne suis pas un partisan du boycott moi. Mieux vaut avoir un que zéro. Et aussi, c'est ce qu'on dit. Nous aussi, lorsque des personnes qui se disent opposants en Afrique, c'est pas le pouvoir en place qui va faire le loge pour eux. Hein. Mmh. Et on a l'habitude de dire, il y a un adage qui dit que celui à qui tu soignes la faiblesse, c'est la personne qui t'arrête ta forme. Donc voilà, sûrement le pouvoir, ils vont pas faire notre place, ils vont faire la place de l'opposition. Et Stéphanie, quand vous voyez même l'exemple ici en France, par rapport aux gilets jaunes, vous voyez, et voilà, ça se manifeste, ça fait combien de semaines que ça manifeste, il n'y a pas eu de mort. Si c'était chez nous en Afrique, on allait, vous-même qui êtes les hommes de la presse, vous allez dénombrer 500 000, 1500, 1 million de personnes qui seront décédées dans cette situation. Donc, vivre tout ce contexte-là, et le peuple africain, on a peur de sortir, on a peur de manifester. Parce que seuls les partisans du pouvoir en place peuvent manifester et sans mort. Mais tant que c'est l'opposition, quand on revendique quelque chose, derrière c'est la mort qui survient. Mmh. Donc voilà pourquoi nous, en Afrique, on n'a pas encore eu cette culture de la démocratie, de la vraie démocratie. La démocratie est unilatérale en Afrique. C'est-à-dire que la démocratie est appliquée qu'à ceux qui sont au pouvoir. Et nous aussi, en opposition, on a aussi un défaut. Parce que pourquoi, mais Stéphanie, quand vous investissez dans une opposition en Afrique, une fois que l'opposant vient au pouvoir, il vous sort des figures que vous n'avez jamais connues dans la bataille. Et ces figures sortent du trou et on les place, on les positionne. Et c'est ceux-là qui deviennent des maîtres au devant de ceux qui se sont sacrifiés. Voilà pourquoi aujourd'hui en Afrique, nous avons aussi ces
usurpateurs, je vous entends voilà. Bien, mon cher voilà. Fousseini. Je vous remercie, Fousseini, de votre intervention. Alors, dans quelques instants, on va peut-être prendre Gaspard qui va nous parler de révolution. Juste avant, je vous lis un extrait du texte de Thomas Dietrich, écrivain, qui a publié un texte sur l'opinion concernant le Togo, la longue marche vers la liberté. Il dit que ce n'est qu'au prix qu'une énième répression sans pitié que la dynastie des Eyadema a pu se maintenir à la tête du Togo. Aidée peut-être, écrit Thomas Dietrich aussi en cela, par l'impréparation d'une frange de l'opposition dépassée par son succès, notamment Tikpi Hachadam, qui très vite, trop vite, s'est réfugié au Ghana, il y réside depuis à présent un an, se cachant des sbires du pouvoir, refusant toute interview, cultivant le mystère si caractéristique à un or, n'ayant pas encore remisé tous ses fétiches. Gaspard, bonjour.
Allô.
Bonjour Gaspard. Alors dans ce même papier de Thomas Dietrich, il cite Smoky, et Smoky a dit ce propos à Thomas Dietrich, il dit qu'il faut être un peu naïf pour faire la révolution. Qu'en pensez-vous?
Mais j'ai pas suivi cette partie. Bon, mais enfin, c'est son opinion.
Vous étiez en train de dire ce qui fait défaut dans les pays africains du tiers-monde, c'est la révolution.
Vous citez donc
Smoky qui dit il faut être un peu naïf pour faire la révolution. Est-ce que les Togolais sont trop conscients?
Oui, non, mais justement, mais c'est son opinion, je la respecte, mais je suis quand même désolé, parce que on sait que la plupart des grandes démocraties, vraiment de ce monde, du moins la plupart des grands pays qui sont devenus démocratiques dans ce monde, sont passés par la révolution. Mais je n'oserais pas citer la révolution de 1789 en France, hein, donc ça, bon, pour ceux qui ont étudié un peu l'histoire de la France, ils savent très bien que on est passé par là.
Il faut faire la révolution. Vous savez, c'est comme, je citais Smokey et la boucle sera bouclée, hein, je cite souvent ce slogan, je n'ai pas trouvé le mot, cette devise, voilà, du Burkina Faso, seule la lutte libère. Merci Gaspard, hein, de votre participation. Merci à tous de votre participation. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter @JAuditeur. On se donne rendez-vous demain pour la libre antenne du JDA. N'hésitez pas à vous inscrire en nous laissant un message, voire votre numéro de téléphone sur le répondeur 01 55 07 58 05. À demain.